Didier Moulier, on vous retrouve dans ce premier radiobarque de la 8e saison, essentiellement, mais jamais exclusivement, parce que je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on l'a compris tout à l'heure, comme président du Grand Narbonne, mais évidemment avec des petits allers-retours avec la ville. Par exemple, un premier point. Le théâtre, dont on sait que c'est un théâtre aujourd'hui communautaire, il a un parvis que dont certains réclament à corps et à cri depuis des années la réfection. Alors ça y est, je crois que les travaux vont débuter.
Mais le parvis n'est que un petit
oui, c'est un petit
morceau visible et esthétique, hein, puisque le parvis a été érodé par le temps et abîmé par le temps. L'ensemble du bâtiment et de l'espace qui en fait le tour, dont le parvis, ont été transférés à l'agglomération en deux temps. D'abord le théâtre, puis le parvis. C'était un oubli de la part de l'administration de transférer le parvis.
Oui, parce que c'était un peu incohérent quand même.
Totalement incohérent, mais c'est pareil pour d'autres lieux. L'espace de liberté, il n'y a que le bâtiment qui est à l'agglomération et le parking est à la ville, par exemple. Enfin, il y a d'autres lieux comme ça, et ne croyez pas que c'est une exception. C'est au moment du transfert, on n'a pas pensé prévoir les deux, puisque la ville avait un maire et l'agglo avait un président qui était la même personne entre 2003 et 2008. Donc, au moment de ces transferts, ça ne choquait pas. Aujourd'hui, l'agglomération est propriétaire de ce parvis et l'agglomération, avant 2020, avait décidé de refaire le parvis. Arrivé à la présidence de l'agglomération en juillet 2020, je n'ai pas modifié ce projet, qui est incorporé dans la réfection totale de l'entrée Est, où toutes les collectivités participent, l'État, la région, le département, le Grand Narbonne et la commune de Narbonne. Et donc, à partir de juillet 2020, on a travaillé sur le projet initial de refaire à l'identique. Ce qui me fait sourire, c'est que certains qui étaient dans cette majorité de l'agglomération avant le mois de juillet 2020, aujourd'hui s'amusent à faire des commentaires enfantins et même ridicules sur la communication institutionnelle du Grand Narbonne.
Mais c'est pas grave. Ça, c'est le jeu politicien.
C'est pas de la politique. Ça montre un peu le côté obtus de ces personnes qui sont passées dans l'opposition aujourd'hui, tant à la ville qu'au Grand Narbonne. Il y a eu un retard dans la réalisation du parvis parce que la directrice du théâtre s'est mêlée de ce parvis et a souhaité que l'ensemble de l'extérieur du théâtre soit aménagé d'une façon qui correspondait à son projet. Simplement, ce projet passait de 500 000 à plus d'un million cinq de travaux.
C'est-à-dire trois fois plus.
Trois fois plus, qui ne rentrait pas dans le budget global de l'entrée Est. Donc, on refait le parvis du théâtre à l'identique. Seulement, le revêtement va être modifié. C'est de la pierre et non plus de la pierre recomposée.
Bon, et alors quand est-ce que les Narbonnais pourront s'ébahir devant ce nouveau parvis?
Il va falloir quelques semaines de travaux, puisqu'il commence la semaine prochaine, et il y aura une durée relativement courte de travaux qui n'impactera pas la circulation, contrairement à certains qui soupçonnent que cela va gêner la circulation, et qui n'impactera pas l'entrée et la sortie du théâtre, puisque cette partie-là n'est pas concernée par la réfection du parvis.
Donc ça ne gêne pas du tout pour la saison culturelle.
Absolument.
Alors, d'autres sujets de l'agglo du Grand Narbonne, on va essayer de se concentrer sur ceux qui, à mon sens, méritent une explication parce qu'ils peuvent être perçus de façon contradictoire ou peu claire. Je veux parler, par exemple, de la ligne TGV, du projet de ligne TGV Montpellier-Perpignan, divisé en deux tronçons, Montpellier-Béziers et puis Béziers-Perpignan. Lors du dernier conseil communautaire, il y a eu un vote et il se trouve que les Verts, donc les écologistes, ont fait un petit peu bande à part d'une manière qui me semble assez difficile à comprendre pour des raisons alors de ligne de fret, c'est-à-dire la ligne peut être mixte voyageurs et fret, marchandises, ou pas. Et là, il y a un désaccord. Vous avez refusé un amendement des Verts. Est-ce que vous pouvez expliquer une situation qui est, à première vue, difficile à appréhender ?
cette ligne à grande vitesse qui, dans notre région, fait Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan, est un ancien projet, un vieux projet qui a été remodelé, rediscuté et réétudié. Aujourd'hui,
25 ans que ça traîne à peu près.
25 ans que ça traîne. Aujourd'hui, après un gel de cette ligne, le Premier ministre a dit que l'on pouvait se lancer dans un nouveau projet. Ce nouveau projet entre Montpellier et Perpignan va être phasé sur de très longues années, puisque la première partie, c'est Montpellier-Béziers, la deuxième partie, c'est Béziers-Perpignan. Mais cette première partie, qui commence à peine aujourd'hui, devrait s'achever aux alentours de l'année 2030. Et la deuxième partie ne devrait commencer que vers 2040 pour se terminer 10 ans ou 15 ans plus tard. Les études qui ont été faites, les études qui ont fait l'objet d'une concertation et d'une enquête publique, ont permis de voir que la SNCF avait changé d'avis et dire on va mettre des gares à différents endroits plutôt que de sélectionner certains sites. Et donc, la grande discussion avait eu lieu entre une gare à Béziers et une gare à Narbonne. Il y aura une gare à Béziers et à Narbonne. Peut-être qu'en 2040, on reviendra sur un autre projet et qu'il n'y aura pas de gare à Narbonne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se figer sur une position. Ça évolue tellement. Ensuite, il y a le tracé. Le tracé lui-même a fait l'objet d'une étude, d'un projet, mais il ne pourra pas se réaliser. Cuxac-Dode a été protégé par des digues, ça l'est le Dode aussi, et si TGV passe sur une digue, cela va contrarier toutes les études techniques pour protéger ces deux communes. Si le projet avait prévu de ne faire que de l'extérieur à hauteur de Roquefort, qui dit que demain il n'y aura pas un tunnel pour protéger cette partie de notre territoire des nuisances éventuelles que procure une ligne à grande vitesse? Donc le tracé lui-même est arrêté. Mais la réalisation de la ligne n'est pas arrêtée. Aujourd'hui, dans l'avancement de ce projet, nous en sommes où toutes les collectivités sont autour de la même table, l'État, la région, le département, les communautés d'agglomération et la SNCF, pour dire « finançons ce projet-là ». Et chacun, en fonction de différents critères, va participer au financement. Nous n'en sommes qu'à la première partie, Montpellier-Béziers, avec le financement de l'enquête publique et le projet de financement des travaux. Nous ne pouvons pas sortir de ce projet. Nous sommes obligés d'y rester, puisqu'il y a une réciprocité de l'ensemble des collectivités pour dire nous participerons aussi à la partie Béziers-Perpignan, que ce soit les communes de Nîmes, enfin les territoires de Nîmes, le territoire de Montpellier, le territoire de Béziers. Donc soyons présents. Mais nous ne pouvons pas leur imposer aujourd'hui de travailler sur ce projet Béziers-Perpignan, à savoir s'il va y avoir un aqueduc aux alentours de Cuxac ou un tunnel aux alentours de Roquefort. On ne va pas se pencher aujourd'hui pour savoir si on doit faire une ligne que passager ou une ligne partagée passager et fret. Ça a déjà été abordé, mais entre-temps, la modification de la submersion de notre territoire par la Méditerranée, ça s'avère grave et rapide. Donc la ligne actuelle qui passe au milieu des étangs entre Narbonne et Port-la-Nouvelle, peut-être que demain ou après-demain n'existera plus.
Est
menacée. Et donc on demandera de renforcer la ligne LGV avant de créer une nouvelle ligne entre Narbonne et le 4, permettant de combler ce tronçon. Donc, ne nous lançons pas dans une polémique pour dire bloquons le système dans la mesure où il faut qu'on sache ce que fera la ligne Béziers-Perpignan en fret et passagers. Travaillons sur le premier tronçon pour avancer sur le deuxième. Et entre-temps, prévoyons des études. Celles qui se disent être les robines sont des politiques politiciennes et qui ne visent que des élections. L'élection présidentielle et l'élection législative qui va arriver en 2022. Donc je dis, mesdames, soyez beaucoup plus raisonnables, travaillez tout ce qui s'est passé depuis les 25 ans dont vous parliez, Jean-Claude, il y a un instant, regardez tout ce qui a été précisé, annoncé, combattu, pour aujourd'hui vous pencher sur le tronçon qui sera fait à partir de 2040. Mais ne nous imposez pas une modification de ce que tout ce travail a été fait avec une volonté de travailler en commun autour de la table. Il semblerait que cette minorité politique souhaite aujourd'hui défaire la table ronde autour de laquelle il y a tout oui, le monde ça, qui est uni.
Pour faire court, vous voulez dire par là que imposer des nouvelles donnes, ça risquerait de faire capoter le projet tel qu'il se met en place.
Mais par définition. Donc je dis à ces robines, arrêtez de faire de la politique politicienne, pensez aux habitants de votre territoire, et à votre territoire de penser à vous-même et à des objectifs politiques.
Didier Mouly, restons un peu dans la prospective futuriste avec l'hydrogène. Alors on va faire peut-être, comme on dit, rêver un peu les gens. Vous pensez que l'hydrogène, c'est une source d'énergie qui est vraiment pour demain, sinon demain matin?
Je le pense fortement parce que nous avons la chance sur le territoire du Grand Narbonne d'avoir à Port-la-Nouvelle, n'en déplaise aux robines, une nouvelle énergie qui va être créée à partir de l'éolien flottant. Je ne suis pas un scientifique et je ne me ferai pas un cours de science, mais l'électricité va permettre de réaliser de l'hydrogène. Cet hydrogène va être stocké et va pouvoir permettre à notre territoire d'être ravitaillé en hydrogène très rapidement. En tant que président du Grand Narbonne, je dis à tout le monde, ouvrons ce dossier et travaillons sur la possibilité de transformer le déplacement de nos engins, de nos véhicules, avec un nouveau carburant qui est l'hydrogène, qui n'a aucun rejet dans l'air, contrairement au gazoil ou à l'essence. Donc travaillons sur cela, et pour cela, accompagnons la transformation de nos bus et de nos cars, le bus, l'interurbain, le car, le bus, la ville, l'urbain, et le car, l'interurbain. Facilitons le renouvellement de notre flotte par un nouveau carburant. Mais je ne voudrais pas qu'on se limite à l'hydrogène. Je pense qu'il faut travailler sur l'électrique, le gaz naturel et l'hydrogène. Plus on ouvrira ce dossier et plus rapidement on arrivera en renouvellement de nos modes de véhicules, de l'utilisation de nos véhicules, plus on fera baisser le coût de réalisation de cette transformation.
Mais en tout cas, c'est un dossier sur lequel le Grand Narbonne, l'agglomération, s'investit vraiment.
L'agglomération doit s'y investir parce que le renouvellement de la délégation de services publics du transport en commun va se faire dans les prochains mois. Et il faut le travailler dès maintenant avec notamment un alinéa concernant le carburant qui sera utilisé par ces modes de transport en commun, les bus et les cars. En même temps, l'ensemble de nos communes renouvelle à rythme régulier son parc de véhicules lourds ou de véhicules légers. Et il faut accompagner l'ensemble de ces collectivités, de ces communes, et même le Grand Narbonne, à le changer par rapport à l'hydrogène. Demain, il y aura du stockage d'hydrogène sur notre territoire et il y aura de la distribution d'hydrogène sur notre territoire. Ne serions pas les derniers, accompagnons cette transformation, accompagnons-la en montrant l'exemple et en accompagnant les industriels à fabriquer mieux. Je vais prendre un exemple. La fabrication des bus à hydrogène se fait à Albi, entièrement.
En Occitanie.
Donc. En Occitanie. Et entièrement, fabrication qu'avec des produits français, sauf quelques-uns qui ne sont fabriqués sur place, mais qui sont achetés, mais sinon qui sont achetés sur des fabricants français, je pense au siège, par exemple. Donc, profitons de cette possibilité pour transformer nos modes d'appréciation du moyen de déplacement.
Alors, on va conclure sur un petit bémol, ou là encore un besoin d'explication. Récemment, dans un conseil communautaire, il y a eu une motion qui rejette notamment la possibilité d'une proposition par une société d'un stockage souterrain. Alors là, apparemment, ça a fait peur à beaucoup de gens.
C'est une motion qui a été acceptée pour le rejet du stockage souterrain.
Rejet, une motion de rejet.
La société Caire, qui est installée sur le port de Port-la-Nouvelle pour l'éolien flottant, est en train de travailler sur la transformation de l'électricité produite par l'éolien flottant en hydrogène. Il faut stocker cet hydrogène. Et sous notre territoire, Périac, Sigean, Bages, Narbonne, Bizané et autres communes, il y a une immense cavité qui pourrait permettre le stockage de l'hydrogène, comme on stocke dans d'autres cavités sur le territoire français ou même en Europe, du gaz naturel. Le risque est énorme, parce que l'explosion...
Autrement dit, ça n'est pas le même pour l'hydrogène et pour le gaz naturel.
Donc ce risque est aujourd'hui important, majeur, et il n'y a pas d'études qui permettent de dire qu'il est minime. Par définition, l'ensemble des élus, voulant protéger leur territoire et surtout leurs habitants, disent à l'État, n'envisagez pas de donner une suite favorable à la demande de cette société, de créer des forages pour aller vérifier la possibilité de stocker cet hydrogène souterrain.
Donc, cette motion de rejet, c'était de la bonne vieille prudence, finalement.
Et vous avez vu que c'était à l'unanimité.
Oui.
Même les Robins, qui ne sont qu'une opposition municipale au sein d'un conseil communautaire, ont voté pour.
Merci Didier Mouly. On se retrouve après une pause pour une troisième partie.
Merci Jean-Claude.
Partie.